Voilà, bonjour à tous et à toutes. Alors, est-ce que les enfants de l'école du dimanche qui sont avec nous peuvent se lever ? Allez, allez, les timides, là. C'est bon ? Est-ce que vous pouvez vous mettre là ? Tu peux juste te... Est-ce que Candice, tu veux bien t'approcher ? Et les filles Michel et Florence, vous pouvez venir ? Parce que j'aimerais que ce soit un peu interactif ce matin. Et que vous soyez pleinement avec nous. Oh là là, yo ! T'as dit oh là là, c'est ça ? Alors ce matin, j'ai été touché par deux prières qui ont été, qui se sont élevées. Ah, mets-toi, ouais. Ouais, mets-toi là. Ouais, vas-y, viens. Quelqu'un a remercié Dieu parce qu'il aime les grands, comme moi, et les plus petits, comme d'autres. Je vous rassure, il aime aussi les pas très gros, comme moi, et les plus enveloppés. Et quelqu'un a remercié aussi le Seigneur, parce que pour les délivrances passées, et pour les délivrances à venir, en Jésus-Christ. Amen. Et c'est un petit peu dans le ton, dans la tonalité de ce que j'aimerais partager ce matin. Et pour cela, je vous emmène sur les routes du pays d'Israël. Vous venez avec moi ? Le banania le matin, hein, c'est... Est-ce que vous venez avec moi ? Ah, c'est bien, vas-y, tu es prêt ? Ouais, c'est une image. Hein. Et je vous invite à la suite de Jésus. Jésus, on va retrouver Jésus. Ouais. Désolé pour le quiproquo. On va retrouver Jésus à la fin de son ministère. Il est sur la route de Jérusalem qu'il va rejoindre pour la Pâque. Pour s'offrir en sacrifice. Il va d'ailleurs l'annoncer encore une fois à ses disciples, et ses disciples ne comprennent pas ce que Jésus leur dit. Et il vient du nord pour rejoindre Jérusalem, y fêter la Pâque. Et pour rejoindre Jérusalem, j'ai regardé une carte, hein, je vous rassure, il y a deux grandes routes du nord pour rejoindre Jérusalem, soit vers l'ouest, mais il faut traverser la Samarie. Et on sait que les Juifs n'étaient pas très copains avec les Samaritains. Et il y a une autre route, le long du Jourdain, et qui passe par une ville. Une ville qui s'appelle Jéricho. Cette ville est une des plus anciennes villes du monde. Et c'est une ville qui est au bord du Jourdain, près de la mer Morte. Et c'est une ville les plus basses du monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une ville est basse ? Est-ce que vous avez une idée ?
La plus près de la mer.
La plus près de la mer, en tout cas elle est près de la mer Morte. Non, une ville basse, ça veut dire qu'elle a une altitude très basse. Et écoute-moi bien, ce que j'ai lu, c'est que Jéricho est à moins 300 mètres. Tu te rends compte ? Moins 300 mètres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on mesure par rapport au niveau de la mer. Et c'est une ville, s'il n'y avait pas la montagne qui la protégeait, eh ben, elle serait sous les eaux. Est-ce que tu sais à combien de mètres est Strasbourg ? À peu près. On est à, si je me souviens bien, on est à 140 mètres, c'est ça ? 150 mètres d'altitude. Tu vois, on est en altitude à Strasbourg. Voilà, on va retrouver Jésus qui s'approche de Jéricho, il va faire deux rencontres assez particulières. Mais au fait, Jéricho, ça vous rappelle rien ?
Les murailles de Jéricho.
Ouais, les murailles de Jéricho. Alors, tu te souviens de l'histoire un petit peu ? Tu te souviens un peu, non ? Tu te souviens dans quel livre on l'a lu, ça ? Jéricho, c'était une des premières villes, sinon la première ville, que le peuple d'Israël a conquis lorsqu'il est allé conquérir le pays de Canaan. Est-ce que vous vous souvenez à quelle époque c'était ? Ça, c'est vraiment compliqué comme question. Et je suis moi-même allé vérifier, hein, parce que pour pas dire de bêtises. On est en moins 1400 ans avant Jésus-Christ. Et tu te souviens qui c'est qui a conquis cette ville ? Et devant les jeux électroniques, ils sont plus en verve, hein. Il a dit. Josué, effectivement. C'est Josué qui, après de longues années de formation à côté de Moïse, eh bien, a pris la succession de Moïse, est allé conquérir Jéricho avec le peuple. C'est la première ville que les Israélites ont conquis lors de la conquête de Canaan. Et vous vous souvenez un petit peu comment ça s'est passé à l'époque ? Dieu leur a dit, je vous donne cette ville, obéissez-moi, faites comme je vous dis et je vous livre cette ville. Ils ont tourné pendant 6 jours une fois autour de cette ville et le septième jour, ils ont tourné combien de fois ? 7 fois. Et après, ils ont crié, les trompettes c'était chaque fois, ouais. Ils ont crié et les murailles se sont effondrées et ils ont pu prendre la ville. Amen. Je vous invite à lire la première rencontre que fait Jésus en arrivant dans Jéricho. On prend Luc, chapitre 18, versets 35 à 43. Si je vous parle de Bartimée, ça vous parle ? Bartimée, non ? Eh bien, lisons à partir du verset 35. « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. » Alors, dans le passage que j'ai choisi, il n'est pas évoqué Bartimée, mais c'est le même épisode qui est relaté. « Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Qu'est-ce qui se passe donc ? » On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et alors, l'aveugle crie « Fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais lui, il voulait absolument voir Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il crie encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât. Et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» L'aveugle répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu, tout le peuple. Voyant cela, loua Dieu. Recouvrer la vue, ça veut dire retrouver la vue. Hein ? Alors voilà, on trouve un homme qui s'appelle Bartimée, selon les deux autres passages qui relatent cet épisode. Il est au bord d'une des principales routes passantes dans une des grandes villes de la région, Jéricho. Et au fait, pourquoi est-ce qu'il mendie, à votre avis ? Pourquoi est-ce qu'il fait l'aumône ? Pourquoi est-ce qu'il demande ? Ben parce qu'il est aveugle et parce qu'il ne peut pas travailler. Et que certainement, c'est un homme abandonné, qui n'a pas de famille, dont personne ne peut s'occuper. Il est là, au bord de la route. Et il entend quelque chose de particulier qui se passe. Il est là tous les jours au bord de cette route, mais là, aujourd'hui, il y a un bruit particulier. Il y a une foule nombreuse, une foule bruyante, une foule qui loue. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe de particulier ? Et là, on lui dit, ah mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe justement aujourd'hui. Et lui, en une fraction de seconde, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'appelle, il le crie, il le hèle. Et on peut se penser qu'il sait qui c'est. Parce qu'il ne l'appelle pas « Eh, hep, l'inconnu là, l'étranger, comment il l'appelle ?»
Fils de David.
Fils de David. Tout le monde ne s'appelle pas fils de David. Bartimée sait parfaitement qui c'est qui passe. Et il l'interpelle. Il crie après lui. Il avait certainement entendu parler de lui, parce que la renommée de Jésus l'avait précédé, les différents miracles que Jésus faisait. Et il savait que c'était le moment où il fallait se raccrocher à Dieu. Sauf que la foule, qu'est-ce qu'elle fait, la foule ? Elle essaye de le dissuader, elle lui dit « Non, Jésus ne s'intéresse pas à des gens comme toi. Toi, tu es la lie de la population. » Et là, il se révolte. Et il crie encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Et dans un passage parallèle, dans Marc, me semble-t-il, j'aime beaucoup le passage qui dit... Alors, il crie une deuxième fois, et Jésus s'arrête, et il le fait appeler. « Allez, faites-le venir !» Et là, dans Marc, il est écrit que l'aveugle bondit. C'est-à-dire que c'est pas « Oh, il se lève doucement, il dit « Ah, bah, allez, si déjà il m'appelle, j'y vais, quoi !» Non, il bondit. Et il laisse sur place son manteau. Ça peut nous paraître insignifiant, mais Bartimée, une fois que Jésus l'appelle, bondit de sa place, laisse son manteau. Laisser son manteau, moi, je pense que c'est quelque chose de précieux. Pour un aveugle seul, il était dans d'autres récits, il est dit qu'il était accompagné, mais là, le focus est mis sur un des aveugles, peut-être le porte-parole des aveugles, en tout cas celui qui avait plus de niaque. Il laisse son manteau, il laisse peut-être ce qu'il avait de... Tout ce qu'il avait dans la vie, ce manteau sur lequel il pouvait s'allonger, avec lequel il pouvait se couvrir, il le laisse au risque de se le faire voler et il va vers Jésus. Quel signe de foi! Il laisse ce qu'il a pour répondre à l'appel de Jésus. Il s'approche de Jésus et qu'est-ce que lui demande Jésus? Vous avez entendu, vous vous souvenez? Oui, que puis-je faire pour toi ? Étonnant, non ? C'est fou. Déjà, nous, on aurait vu qu'il est aveugle, quoi. On aurait dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je vais te payer une séance de médecin, ou je sais pas. Jésus le voit, lui qui est omniscient, qui sait omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Et il les sait d'avance. Et Jésus lui demande... Que veux-tu que je te fasse ? Ce passage me rappelle toujours au début de ma conversion les prédications de Jean-Peter Schmitt à Mulhouse. C'est une église qui prie régulièrement pour les malades et il nous avait une fois témoigné la chose suivante. Un homme s'était approché de Jean-Peter Schmitt et il était. Alors je ne sais plus quelle infirmité il avait, mais elle était évidente. Je ne sais pas s'il boitait ou s'il était paralysé d'un côté, que sais-je, ne sais plus. Et Jean-Peter Schmitt, bonhomme comme il est, prend comme ça et lui dit « Alors mon frère, je vais prier pour ton infirmité. » Et l'homme de lui dire « Ah non, pour ça j'ai une indemnité, j'ai une, comment on appelle ça, une rente, une pension. Non, ça c'est bon. Prie pour, je ne sais pas quoi, pour mon contre mon rhume ou contre... » C'est fou, non ? Jésus demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'homme de lui dire « Seigneur, que je retrouve, que je recouvre la vue. » Et à l'instant, Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé. Tu as bondi vers moi. Tu as crié deux fois. On voulait t'empêcher de venir à moi. Tu as voulu t'approcher de moi. Eh bien, j'honore ta foi. » J'honore ton engagement, j'honore ta persévérance et te voilà guéri. Amen. Jésus le guérit physiquement, les yeux, mais aussi spirituellement. La guérison physique n'est que le reflet de la guérison spirituelle. Ses yeux se sont ouverts. On le lit à la fin du passage, il se met à louer Dieu et la foule avec lui. Jésus, le Fils de Dieu, se laisse interpeller. Il est l'ami de tous les hommes, les petits, les grands, les jeunes, les moins jeunes. Il est l'ami de tous ceux qui ont un cœur ouvert et sincère, prêt à se repentir. Amen. Jésus poursuit son chemin et il va faire une deuxième rencontre tout à fait différente. Si je vous parle de sycomore, ça vous parle ? Ça vous évoque aucun passage de la Bible ? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un sycomore, à votre avis ? Vous savez, vous ne savez pas ? Eh bien alors, c'est cool, on va le découvrir. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Lisons ensemble. Je me tourne vers vous. Vous écoutez bien, puis vous me direz ce que c'est qu'un sycomore alors. OK ? Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. La foule était nombreuse, il y avait plein de monde. Les chemins n'étaient pas très larges. Il n'y parvenait pas parce qu'il était de petite taille. Comme quoi, on peut devenir riche même quand on est petit. Hein. Enfin, parenthèse. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi, je dois demeurer aujourd'hui chez toi. Non, pardon, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyons cela, tous, c'est-à-dire la foule qui accompagnait Jésus, murmurait et disait « Ah, il est allé loger chez un homme pécheur !» Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Alors, qu'est-ce que ça peut être un sycomore ?
Un arbre.
Un arbre. Un gros buisson, un arbre. Alors, moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Pardon ? Ça ressemble à un érable ? Ah, c'est un érable, d'accord. Ah, c'est bien, hein. C'est bien que tu sois là chaque fois que je fais des messages pour les jeunes, parce que l'année dernière, c'était le... Tu te souviens
Le daman
de Pyrénées, exactement. Gérard, c'est très bien. Alors, sycomore, pour ce que j'ai lu, ta surveillance, j'ai lu que c'était un arbre robuste, mais avec des branches basses, assez basses, qui s'étale pas mal. Moi, je me suis représenté ça un peu comme un figuier costaud. Et effectivement, ça permettait à une personne d'une petite taille de monter dessus et de surplomber la route. Drôle de truc pour un riche, drôle de truc pour quelqu'un qui devait être habillé, à mon avis, un peu classe. Nous voilà avec Zachée. Alors Zachée, on dit que c'est un homme riche. Et on nous précise que c'est un publicain. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ?
C'est celui qui ramasse les impôts.
Il est bien jeune, il est bien, il gagne à être connu. C'est bien. Effectivement, celui qui ramasse les impôts. Et à ton avis, est-ce que les gens aimaient les publicains? Pourquoi pas? Parce qu'ils leur prenaient toujours l'argent en plus, effectivement. Ah oui. Enfin, ah non, les publicains n'étaient pas aimés des juifs. Je rappelle qu'à cette époque, Israël était sous le joug des Romains, et les Romains, ils préféraient sous-traiter les basses œuvres. Et en fait, ils cherchaient parmi le peuple des gens, peut-être un peu, avec un peu moins de scrupules, sans trop de foi, sans trop de loi, et ils sous-traitaient aux gens du peuple la collecte de l'impôt. Et j'ai lu que les Romains, pour ce service, on va appeler ça comme ça, ne rémunéraient pas les personnes qui collectaient l'impôt. Ils leur disaient, voilà, ce qu'on veut, c'est que tu ramasses dans la juridiction qui t'est dévolue, dont tu as la responsabilité. On dit, voilà, je veux que tu nous ramènes chaque année, ou je ne sais pas quelle était la périodicité, tant. Le reste, t'en fais ton affaire. Et effectivement, les publicains n'étaient pas aimés parce que non seulement ils ramassaient l'impôt de l'occupant, les Romains, mais pour se rémunérer, ils en prenaient un peu plus. Un peu plus, puis un peu beaucoup plus, et puis très beaucoup plus. C'est pas français, ça. Hein. Ils n'étaient pas aimés. Ils étaient traités de voleurs et de collaborateurs de traîtres. De collaborateurs de traîtres. Les publicains n'étaient pas aimés. Et dans d'autres passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit que c'était mis au même niveau que les prostituées. Prostituées et publicains. C'était vu comme des publicains. D'ailleurs, le mot publicain était devenu le symbole des gens de la pire espèce. C'était des gens, quand on te traitait de publicain, c'était... Et je disais que les publicains, c'était souvent des gens sans foi ni loi, et il me semble qu'on peut penser qu'ils étaient conscients de leur état. Ils se savaient pécheurs, ils n'étaient pas... Alors il y en a certainement qui le faisaient sans scrupule, mais si vous remontez un peu dans le chapitre 18 de Luc, c'est le passage où il y a d'un côté un pharisien qui prie, et de l'autre côté, et un peu après, un publicain. Et le pharisien, il dit « Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme lui, et justement pas comme ce publicain-là. » Et au contraire, le publicain, lui, il dit « Seigneur, je sais que j'ai fauté, je sais que je ne suis pas digne. » Donc il était conscient, les publicains étaient conscients qu'ils étaient, j'allais dire, de fait, pécheurs. Vous retrouvez le passage en Luc 18, 9 à 14. Voilà notre Zachée, publicain, c'est pire même, hein, chef des publicains. C'est-à-dire qu'il devait avoir une zone autour de Jéricho, mettons Jéricho, qui devait être une ville assez riche. Et en fait, il avait des publicains sous ses ordres. Donc lui, c'était le chef des publicains. Donc on peut imaginer qu'il était vraiment riche et vraiment haï, en plus d'être petit. Et puis, il était haï parce que, bon, les gens des impôts, moins on a affaire avec eux, mieux c'est, hein, Jacques. Hein, les jeux de... Ouais. Et pourtant, Zachée voulait absolument voir Jésus. Il était petit, il entend venir, il court sur un sycomore. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une situation des plus, je trouve pas le mot, mais valorisante. Merci. Franchement, pour un riche, je pense qu'il avait un beau costume, une belle robe à l'époque, et puis hop, il va sur le sycomore, et puis il est là. Il veut ardemment voir Jésus. Il monte sur ce sycomore. Et Jésus s'approche. Et vous avez remarqué que, contrairement à Bartimée, il n'y a pas Zachée, il n'est pas là à dire « Eh oh, Jésus, viens m'aider, aie pitié de moi ». Non, non, La première chose, c'est que Zachée, il est curieux, il veut voir qui est Jésus. Et le récit nous dit que, voilà, Jésus approche, et tout d'un coup, il s'arrête. Et il lève la tête, et il interpelle Zachée. Il lui dit, Zachée, aujourd'hui, je paraphrase, hein, aujourd'hui est jour de salut pour toi, viens, je veux demeurer chez toi. J'ai lu que, a priori, c'est le seul passage dans les évangiles où Jésus s'invite lui-même chez quelqu'un. Zachée voulait voir ardemment Jésus et Jésus répond à cette envie. Car il a certainement vu que Zachée avait un cœur ouvert, préparé à accueillir la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et dans la suite du passage, on voit que Zachée descend aussi vite du sycomore que Bartimée avait bondi, accueille Jésus avec joie. Malgré la foule qui dit « Oh là là, ça y est, Jésus, oh, ça y est, il traîne de nouveau avec les publicains. » Zachée accueille Jésus, est touché au plus profond de ce cœur, se convertit immédiatement et on en voit de suite les fruits. Notez le sens, l'ordre des choses. Jésus s'approche de Zachée, Zachée l'accueille, se convertit et règle ses affaires. Le fait qu'il rende ce qu'il a volé, qu'il le rende au quadruple, et qu'il cherche à mettre sa situation au clair, est le fruit de sa conversion, et non pas la condition. Jésus ne lui dit pas, « Bon, écoute, moi je sais ce que tu as fait de pas bien, hein, je le sais, et puis la foule me l'a répété, hein, et puis tu as une sacrée réputation autour de Jéricho, hein, donc maintenant tu rends tout, et après je te pardonne. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Que ce soit Bartimée ou Zachée, ils sont venus à Jésus de manière différente. Ils sont venus avec un cœur sincère. Ils se sont détournés du mal, ou en tout cas, ils ont eu confiance en Jésus et leur foi et leur persévérance a été également honorée. Zachée a été touché par Jésus. Il se savait condamné par ce qu'il faisait et de la manière dont il vivait. Et il attendait tout de Dieu, conscient de son péché. Il se savait totalement dépendant de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Et il se convertit. Amen. Et pour la petite histoire, quel contraste avec l'attitude du jeune homme riche qu'on retrouve aussi juste avant dans le chapitre 18. Un jeune homme qui, lui, de prime abord, venait avec un cœur bien disposé, il dit à Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume de Dieu ? Alors Jésus, dans un premier temps, lui dit, bon, ben, prends la loi et est-ce que tu ne dois pas voler, tu ne dois pas commettre l'adultère ? Et le jeune homme, manière de se justifier, il dit, mais Seigneur, moi, j'ai fait tout ça, c'est bon. Et Jésus lui dit, eh ben, c'est bien, il te reste une chose à faire. Va, vends tout, donne aux pauvres et suis-moi. Et là, Jésus avait touché sur le point névralgique. Le point névralgique, c'est le point qui fait le plus mal, le point le plus sensible. Car ce jeune homme était très, très riche. Et lui, par contre, contrairement à Zachée, n'a pas lâché ses richesses. En tout cas, au moment où l'Évangile nous en parle. Voilà, deux rencontres de Jésus sur sa route vers Jérusalem, aux alentours de Jéricho. Bartimée qui crie à Jésus pour être délivré à la fois physiquement et délivré spirituellement. Et Zachée, un homme riche qui avait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il lui fallait, mais qui cherchait certainement un sens à sa vie et qui a rencontré Jésus et s'est laissé toucher. Tout ça pour dire que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est universelle. Elle concerne tout le monde, les malades, les aveugles, les opprimés, mais comme les riches. Christ s'adresse à tous les affamés de salut et de justice. Et Dieu aime les petits et les grands, tu crois aussi ? Ouais, il m'aime aussi, moi. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime ? En tout cas, je vous le dis. Dieu vous aime. Et vous, les grands ? Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime ? Je m'approche un peu du fond, là, parce que j'étais beaucoup avec les enfants. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime ? Amen. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle en héritage. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Jésus aime les petits et les grands. Jésus délivre hier, aujourd'hui et demain encore. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que par ces passages, par ce passage, par ces rencontres sur la route de Jérusalem, eh bien, tu nous rappelles que ton amour est incommensurable, est inconditionnel, que ton amour s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur condition, et que aujourd'hui encore est jour de salut, aujourd'hui encore est jour de guérison, aujourd'hui encore est jour de délivrance en toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu nous aimes et qu'aujourd'hui encore, tu veux œuvrer dans chacune de nos vies. Nous avons aussi vu dans ces passages que, eh bien, la seule chose que tu attends, c'est que nous venions vers toi. La foule voulait empêcher Bartimée d'aller voir Jésus. La foule maugréait contre Zachée qui accueillait Jésus. Eh bien non, toi, tu te laisses interpeller, tu viens là où on t'invite pour changer et transformer nos vies aujourd'hui encore. Seigneur, merci parce que nous pouvons venir à toi, nous pouvons revenir à toi à chaque instant, à chaque moment de nos vies. Que nous soyons petits, grands, jeunes, moins jeunes, ton amour est vivant. Au nom de Jésus, Amen.